Dimanche prochain, c'est quoi dimanche prochain? La grosse chorale de Nouvelle Vie, sont plusieurs personnes, ça va être plein ici de monde, ils vont chanter, ça va être super. Invitez vos amis, invitez les collègues de travail, ne manquez pas cette belle occasion d'inviter même vos voisins, de la famille, ça va être une belle occasion. On espère que vous avez eu une bonne semaine et si vous êtes ici pour la première fois, on veut certainement vous inviter à vous rendre au kiosque à la fin. On est content de vous voir ce matin et peut-être si vous êtes intéressé qu'on aille chez vous et qu'on vous explique un peu ce qu'on fait ici à l'église et ce qu'on croit, vous laissez simplement votre nom et puis on va vous contacter et on vous encourage à le faire. Et il y a un cadeau pour vous là-bas, il n'y a pas d'attache, vous allez chercher votre cadeau, vous n'êtes pas obligé de laisser votre nom, là. Il n'y a pas c'est pas un contrat là. Mais vous êtes simplement invité à le faire. Je pense qu'on connaît tous, ben peut-être, je présume que oui, mais peut-être que non, dans le fond. L'ancien coach Tom Landry, il était coach de football de Dallas Cowboys. Il était reconnu pour être un excellent coach. Puis, on a retenu à travers les années quelques-unes de ses citations, parce que c'est un gars qui était tellement... Il avait cette habileté vraiment d'aller chercher la qualité de chaque joueur et faire ressortir ça. Donc, et c'était un grand motivateur pour ses joueurs, il était reconnu pour ça. Donc, lors d'une entrevue, il a dit ceci. Il a dit, « Mon travail comme coach consiste à inciter des hommes à faire ce qu'ils n'aiment pas afin qu'ils accomplissent ce dont ils ont toujours rêvé. » Ça, c'est le travail d'un coach. De vraiment, mon travail comme coach consiste à inciter des hommes à faire ce qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est vraiment comme travailler dur et vraiment s'entraîner dur, à la dure. Et vous savez, si moi, vraiment, vos enfants sont dans le sport et tout ça, c'est toute une discipline. Il dit, c'est d'inciter des hommes à faire ce qu'ils n'aiment pas afin qu'ils accomplissent ce dont ils ont toujours rêvé. Et ensuite, ce qu'il va faire, il va commencer à parler de la discipline personnelle, pour te rendre à ce niveau-là de professionnalisme. Et comme professionnel, ça a des exigences, ça a des demandes. C'est très demandant. Parce que la maîtrise de soi, dans le fond, c'est une très belle qualité. Et c'est l'une des qualités que le Saint-Esprit veut produire en nous lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Vraiment, une des qualités que Dieu veut développer, veut faire grandir en nous, l'une des qualités qui fait partie du fruit de l'Esprit. J'aimerais qu'on retourne ensemble dans ce passage que nous avons regardé plus d'une fois vraiment depuis le début de la série. On termine ce matin cette série sur le fruit de l'Esprit. Et on va lire ensemble un passage que nous avons lu, mon ami, plus d'une fois. Et on va regarder ce que Paul est en train de dire dans ce passage et particulièrement avec la maîtrise de soi. Donc, Galates chapitre 5, verset 16. Et on va lire jusqu'au verset 26, dans le fond. Alors, Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je vous dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Maintenant, on l'a dit plus d'une fois, mais il faut le répéter surtout ce matin. Quand on parle du fruit de l'esprit, on ne parle en fait que d'un fruit. Un fruit, mais qui contient plusieurs éléments. Et pourquoi il s'agit d'un seul fruit? C'est que le fruit de l'esprit est en fait la sainteté de Dieu. Toutes ces belles, ces beaux éléments que l'on retrouve, tous ces éléments comme l'amour, la patience et tout ça, fait partie finalement de la sainteté de Dieu. On l'a déjà dit au début, ça fait partie des attributs qui sont communicables de Dieu. Dieu a des attributs qui ne peuvent pas se communiquer, comme l'omniscience, mais Dieu a aussi des attributs qui peuvent se communiquer, et ça s'appelle des attributs communicables, comme la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ce qu'il veut faire et produire en nous par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Alors, c'est un fruit parce que, finalement, c'est la sainteté de Dieu qui se répand en nous, qui grandit en nous. L'Esprit de Dieu est un esprit, donc, d'amour, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de paix. Mais ce n'est pas de cette façon-là que la Bible va présenter, il va parler du Saint-Esprit. Ça parle comment du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est appelé. L'Esprit est appelé le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit est donc, fait partie, c'est un tout, c'est tout enrobé, mais c'est finalement, si tu veux mettre tout le fruit de l'Esprit ensemble, c'est la sainteté de Dieu. Ça fait partie du caractère de Jésus-Christ. La sainteté est semblable à un diamant, sainteté de Dieu, à plusieurs facettes qui scintillent. Tu vas avoir l'amour, tu vas avoir la douceur, tu regardes un autre côté, tu vas avoir la patience, tu vas avoir la maîtrise de soi. Elles existent tous ensemble. Et ce détail-là est important parce qu'on va parler de la maîtrise de soi. Et on va s'apercevoir finalement que la maîtrise de soi, c'est plus que ce que le monde va dire sur la maîtrise de soi. Ça va plus loin. Parce qu'on pourrait vraiment se méprendre. Parce qu'on pourrait simplement parler de la volonté personnelle ou de la discipline personnelle quand on parle de la maîtrise de soi. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'on peut avoir une certaine maîtrise personnelle sans pour autant avoir les autres composants, les autres éléments comme l'amour, la patience et la joie. Maintenant, on lutte tous avec ça, avec les maîtrises de soi, dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de la colère, ça peut être au niveau de la patience, ça peut être la douceur, ça peut être des désirs personnels qu'on a de la misère, ça peut être des habitudes qu'on a de la misère à se débarrasser. Ça peut être dans nos relations, on peut avoir la misère à ce niveau-là, la maîtrise de soi avec nos relations, dans la communication, dans nos couples. On a tous des défis à cet égard-là. Maintenant, les Grecs avaient une conception particulière de la maîtrise de soi. C'était la plus grande qualité que l'on se souhaitait, la plus grande vertu. D'ailleurs, on disait, les Grecs disaient à l'époque, que si tu avais la maîtrise de soi, finalement, tu avais toutes les autres vertus. Tout découlait de là. D'ailleurs, plusieurs philosophes ont écrit des livres juste sur la question de la maîtrise de soi. C'est pas quelque chose qu'on va trouver aujourd'hui dans des bibliothèques. Maîtrisez-vous. Tu sais, t'achèterais pas un livre de 500 pages sur maîtrisez-vous. Ça serait pas, mais dans le temps du Nouveau Testament, des gars comme Aristote, même avant, ça, c'était une grande vertu et c'était très important. Mais les Grecs croyaient que la seule façon d'être libre puis indépendant, c'était en ayant de la maîtrise de soi. Si t'as de la maîtrise de soi, il disait, t'as tout le reste. Parce que si t'as de la maîtrise de soi, personne d'autre peut te contrôler. Puis dans le fond, dans un certain sens, on pense encore comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, moi, je laisserai pas personne vraiment me blesser. J'ai été marqué dans ma vie, tout ça, j'ai eu des mauvaises expériences, c'était difficile. Alors aujourd'hui, moi, il n'y a plus personne. Je laisse pas personne entrer dans ma zone, là, et je vais être indépendant. Je me maîtrise. Je laisse plus les autres m'influencer, tout ça. Donc, on peut comme s'emmurer, se protéger. On a cette notion-là d'indépendance. Mais là, il y a un problème avec la maîtrise de soi qu'on va retrouver dans le séculier, dans le monde. On a un problème avec ça. C'est au niveau de la motivation et de la puissance. Parce que là, on se retrouve à essayer d'avoir la maîtrise de soi, mais il n'y a pas cette puissance à l'intérieur qui va générer cette maîtrise de soi. C'est juste une question de volonté, à ce moment-là, volonté personnelle. Et ça ne s'inscrit absolument pas comme dans les Écritures, où la maîtrise de soi dans la Bible, la maîtrise de soi biblique s'inscrit à l'intérieur de la sainteté de Dieu. Vraiment différent. Alors, la conception des Grecs, celle qu'on va avoir aujourd'hui, est vraiment différente. La maîtrise de soi d'aujourd'hui, ce qu'on va avoir est vraiment différente avec la maîtrise de soi qu'on va retrouver dans les Écritures. L'idée de la maîtrise de soi va être présente dans les Écritures. Cette idée d'avoir vraiment comme une discipline et tout ça, c'est présent, mais elle fait partie de la sainteté, puis étant là, elle est enrobée de tout le reste, comme l'amour, la patience et tout ça. La maîtrise de soi biblique s'inscrit dans la sainteté, puis ce qui est vraiment différent, dans dehors de la Bible. Et dans le passage qu'on est en train de lire, justement, dans Galates, qu'on a lu depuis le début de la série, Paul va faire un contraste. Et il faut voir la maîtrise de soi à l'intérieur de ce contexte de Galates. Paul fait un contraste entre les œuvres de la chair. Cette chair qui est sarx dans l'original, qui parle de cette nature pécheresse qu'on a, cette passion qu'on a en nous qui désire s'opposer à Dieu. On a comme une pulsion à l'intérieur, ça c'est notre nature pécheresse, à nous éloigner, à désobéir à Dieu. Il y a quelque chose qui nous pousse loin de Dieu. Il y a ce côté rebelle, et ça c'est notre chair. La Bible parle de la chair, de la nature pécheresse dans le fond. C'est ce côté qui va chercher à avoir des passions qui vont nous éloigner loin de Dieu. Alors, le passage en Galates fait référence à ça. Il va faire un contraste entre les œuvres de la chair, les désirs de ta chair, de ta nature pécheresse, et l'œuvre que le Saint-Esprit veut produire en toi. Il y a vraiment un contraste. C'est deux opposés. C'est deux puissances qui sont là. C'est pour ça que cette lutte-là qui est à l'intérieur, des fois, tu veux faire le bien, mais en même temps, il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire le mal, et Paul en parle justement dans Romains 7. Et ça, c'est ta nature pécheresse qui est en toi. Deux puissances à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui veut produire le caractère de Jésus en toi, puis cette nature à l'intérieur, cette nature pécheresse qui est déchue, qui veut faire l'opposé, qui veut faire le contraire. Et les œuvres de la chair vont toucher l'immoralité. Mais ça va toucher aussi les émotions. Parce que Paul va parler, au verset 20, ça va parler des querelles, des chicanes, des jalousies, des colères. C'est incroyable, et on voit ça même à l'école, au primaire, au secondaire, on entend ça. Moi, mes petites filles me racontent des histoires qu'ils ont à l'école, et c'est comme, c'est tough. Il y a ces rivalités-là, cette jalousie, cette colère. Il y a des divisions, des sectes, qui veut dire... Dans l'original, une division à l'intérieur d'un groupe, des scissions, des factions. Alors, la maîtrise de soi, selon la Bible, va s'inscrire dans la sainteté. Par exemple, lorsque Paul parle de la discipline personnelle ailleurs, il montre comment le motif d'avoir une discipline personnelle, la maîtrise de soi, et on voit que le motif est vraiment différent des motifs qu'on entend parler à l'extérieur de la Bible. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, il va parler de ceci. Il dit, au verset 25, il dit, « Tous ceux qui combattent, alors les athlètes, là, ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Donc déjà là, il parle du motif de se maîtriser. Pourquoi on veut avoir la maîtrise de soi? C'est plus que d'avoir du succès et ça prend certainement la maîtrise de soi. La Bible est pas... favorise ça, elle encourage ça. Ça prend la maîtrise de soi. Si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, si tu veux avoir une belle carrière, il faut que tu aies étudié, il y a des devoirs à faire. Et absolument, la Bible n'est pas contre ça. Au contraire, c'est très bien. Mais la maîtrise de soi dans les Écritures a d'autres motifs. Elle va plus loin que juste avoir le succès dans ta carrière. C'est que tu le fais avec une vision de l'éternité. Donc, le motif est différent d'avoir la maîtrise de soi. Le chrétien s'impose une discipline pour obtenir une couronne incorruptible. Alors, ça s'inscrit dans la sainteté. On veut se discipliner, on veut se maîtriser, parce que l'enjeu est la sainteté. Le manque de maîtrise de soi conduit donc au manque de sainteté, et ça nous incite à pécher. Et c'est le point de Proverbe 25. Proverbe 25 va dire ceci, « Une ville démantelée, sans muraille. Une ville qui n'a pas de muraille. Voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En d'autres mots, une ville qui n'a pas de muraille autour pour la protéger contre l'ennemi qui s'en vient, il va y avoir des voleurs, des animaux sauvages qui vont venir. Tu deviens vulnérable lorsque tu ne te protèges pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met des systèmes d'alarme et tout ça, on barre des portes. Il y a une raison pour ça. C'est, C'est on veut protéger notre demeure, notre foyer. Une ville sans murailles est vulnérable. L'ennemi peut entrer, peut détruire, peut prendre le contrôle. Et c'est la même chose avec nous. Sans maîtrise de soi, nous sommes comme une ville sans murailles qui la protège. Nous sommes vulnérables devant les tentations. Les tentations de la chair, les tentations de l'ennemi et le péché. On devient vulnérable. Le fruit de l'esprit, c'est donc de restreindre. Et l'Esprit Saint veut nous donner le pouvoir, la capacité, veut nous donner la puissance de nous maîtriser, de restreindre ces désirs passionnels que notre nature pécheresse veut commettre. Notre chair veut satisfaire ses passions. Regardez comment Paul va l'expliquer dans Galates. Regardez bien comment Galates, comment Paul va présenter maintenant ces principes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lettre aux Galates, jusqu'au chapitre 5, Paul montre l'importance de l'Évangile et le danger de s'écarter de la pure Évangile. Le danger. Ils étaient en danger de ça. Les Galates étaient influencés par toutes sortes de mouvements, de courants. Il y avait un danger là, de s'écarter, de s'éloigner de l'Évangile pur. Alors, Paul va bâtir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, va dire, écoutez, il faut revenir à l'Évangile pur. Par exemple, on arrive dans Galates 1, verset 7, ça dit quoi? Ça dit, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile de Christ. Elles veulent le diluer. Mais si un ange même du ciel annonçait un Évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Que si un ange même vient et vous donne un autre évangile de ce qu'on vous a donné, qu'il soit maudit, dans le fond. Nous l'avons dit précédemment, verset 9, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Encore, chapitre 5, verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y avait cette grosse tendance à vouloir, non, mais le salut en Jésus-Christ, il me semble qu'il faut que tu fasses des œuvres pour te gagner une place au ciel. Et ça, c'est pas l'Évangile. C'est que les œuvres ont toutes été accomplies à la croix. Le salut est gratuit, il a coûté très cher. Ça a coûté le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Il a offert sa vie, ça a coûté cher. Mais toi, par exemple, tu ne peux absolument rien faire pour te gagner une place au ciel. C'est Jésus. Et c'est par cette foi-là, lorsque tu places ta foi, lorsque tu crois ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour toi, c'est là que tu as la vie éternelle. Il dit, ne vous écartez pas de ça, de ce message de l'Évangile. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et ce n'est pas en observant, en te plaçant sous un joug de loi, pour essayer de faire des efforts, pour essayer de te mériter une place au ciel dans l'éternité. Alors, Paul fait une grande déclaration sur la grâce et la liberté. Mais là, ce qui se produit, lorsque tu entends ça, tout de suite, il y a des gens qui vont dire, et je l'ai entendu, je n'exagère pas, des dizaines et des dizaines de fois à travers les années, des gens vont dire, « Ah, mais ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. » Il y a des gens qui refusent même de venir à l'Évangile parce que c'est la conclusion qu'ils tirent. Ils vont dire, écoute, tu peux faire ce que tu veux dans le fond. Tu es en train de me dire, là, que moi j'ai juste à croire en Jésus, que Jésus a pris ma place au ciel, sur la croix, pour que je puisse aller au ciel. Puis après ça, c'est pas important, tu peux faire ce que tu veux. Et ce que Paul va faire, et c'est justement le point lorsqu'il arrive au chapitre 5, il est en train de dire, la personne qui croit cela ne croit pas dans le vrai Évangile. D'accord? Et c'est son point qu'il va le faire. Là. C'est ça qu'il va développer. Là. Il va commencer à développer tout cela. Là, avant, d'accord? Avant de lire tout cela. Là. Alors, au chapitre 5, Paul va préciser c'est quoi la liberté de l'Évangile. Verset 13, par exemple. Chapitre 5, verset 13, voici ce qu'il va dire. Il va dire, « Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Il est en train de préciser, écoutez, et c'est ce qu'il va faire au chapitre 5, il est en train de dire, si toi tu penses que la liberté de l'Évangile te donne cette carte blanche qui te donne le droit de faire tout ce que tu veux, hey, détrompe-toi, tu n'as pas mis ta foi dans le bon Évangile. Et c'est fort ce qu'il va dire. Ça fait même peur. Il développe cette idée encore plus et il va ajouter 3 précisions pour clarifier c'est quoi la liberté de l'Évangile. Au verset 16, au verset 26, que nous avons justement lu au début. D'accord? Premièrement, ils disent que la liberté de l'Évangile ne veut pas dire. Alors, il commence comme ça. Il va dire ce que ça ne veut pas dire. Un, et là, il va dire 3 choses. Premièrement, il dit la liberté de l'Évangile ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte spirituelle, mais plutôt qu'on s'engage dans une lutte. Mais la différence, c'est qu'on peut avoir la victoire. C'est ça la différence, c'est qu'il y a une lutte spirituelle, il y a un combat, il y a une lutte entre les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit Saint. Il y en a une lutte, il y a une lutte. La seule différence, par contre, c'est que maintenant, tu peux avoir la victoire sur le péché. Tu peux remporter la victoire. Tu n'es plus esclave du péché comme tu l'étais avant. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, un chrétien, tu es maintenant... c'est ça, cette liberté-là, c'est que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Et c'est ce que dit le verset 16 et 17. La liberté de l'Évangile signifie qu'on s'engage dans une lutte qu'on peut gagner. Je dis donc, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors qu'avant, tu étais prisonnier. Et c'est ce que dit Éphésiens 2, tu avais des désirs, tu étais dicté par ta nature pécheresse. C'était pris. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La liberté de l'Évangile comprend donc une lutte. C'est pas l'idée que tu peux faire ce que tu veux. Absolument pas. La liberté dont il est question ici, c'est la lutte. Tu peux maintenant lutter. C'est ça la liberté de l'Évangile. Sachant que tu peux remporter la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que j'entends des amens dans la salle? Hey, ça fait une grosse différence. La liberté de l'Évangile comprend une lutte, mais la différence, c'est que tu peux avoir la victoire. Deuxièmement, la liberté de l'Évangile ne veut pas dire qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut, mais plutôt qu'on veut faire de bonnes choses. On veut maintenant produire de bonnes choses, faire de bonnes choses. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, mais l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a des désirs, là. Il y a un désir qui est placé. Il y a une volonté maintenant à vouloir faire le bien. Et dans ce contexte, vous, ça parle de la chair, vous êtes lié à la chair. Alors, ce que vous voudriez faire, que vous ne devez pas faire, c'est que la chair veut faire. Le Saint-Esprit nous donne la volonté de faire autre chose que la chair demande et exige. Et c'est quoi? C'est le fruit de l'Esprit. Si l'on désire, le fait juste de désirer le fruit de l'Esprit, c'est un signe que l'Esprit est en train de nous conduire, faire des changements, une transformation. Nous autres, juste le fait de le désirer, n'est-ce pas? C'est ça que dit Philippiens. Le désir, la volonté même, le fait de le désirer, désirer ces qualités de l'Esprit, ce caractère de Jésus-Christ, c'est un signe que l'Esprit Saint travaille en nous autres. Donc, la liberté du chrétien, la liberté de l'Évangile, ne veut pas dire que vous êtes libre de tout faire, ou faire tout ce qu'on aimerait faire, tout ce que ma nature pécheresse aimerait faire, mais plutôt de vouloir faire de bonnes choses. Troisièmement, la liberté de l'Évangile ne veut pas dire qu'on est libre de toute contrainte. Absolument pas. Mais plutôt qu'on a été libéré de la contrainte de la loi afin d'être sous la contrainte du Saint-Esprit. Ça, c'est majeur. C'est que t'es pas laissé tout seul, là, comme ça. T'es pas orphelin, là. C'est pas que t'as été libéré, puis maintenant, arrange-toi. En d'autres mots, tu t'aperçois, finalement, que tu n'es jamais maître de toi-même. Tu vas avoir un maître. Ton maître, c'est soit ta chair, ta nature pécheresse, ou c'est soit l'Esprit. Alors, si vous êtes conduit, verset 18, par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça ne veut pas dire que personne ne nous conduit. Nous sommes conduits par l'Esprit Saint. mais nous ne sommes plus conduits par la loi. On prétend parfois que la liberté d'un chrétien nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. Mais Paul va nous présenter un contraste tout à fait différent ici. Ce qui est présupposé au verset 18, c'est que l'Esprit Saint dépasse tellement la loi que la conduite animée par l'Esprit dépasse complètement la conduite qu'on peut mener sous la loi. C'est ça qui est présupposé ici. Nous sommes libres de la loi parce que nous sommes sous contrainte du Saint-Esprit. On est conduit par le Saint-Esprit. Et ça va tellement plus loin. Ça produit tellement de beaux fruits. Mais maintenant, on a le vouloir et on a le faire. On a cette capacité, on a une puissance. Un puritain résume bien la différence entre la loi et l'Évangile. C'est formulé comme un poème. Il dit ceci, il dit « La loi exige fait. Toujours avec des commandements, mais ne donne pas les pieds et les mains afin que je puisse le faire. » Mais une meilleure nouvelle se trouve dans l'Évangile. L'Évangile exige que je vole comme un oiseau. Pas mal plus, ça. Mais il me donne des ailes. Vois-tu? Elle me donne des ailes. La liberté de l'Évangile signifie que nous avons été libérés de la contrainte de la loi pour être sous la contrainte du Saint-Esprit. Alors, c'est ce que la liberté de l'Évangile ne veut pas dire. Maintenant, ce que la liberté ne veut pas faire, elle ne produirait pas ça. L'Évangile pur, le vrai Évangile, si tu as mis ta foi dans le vrai Évangile, pour savoir si tu as cru dans le bon Évangile, voici les fruits, voici les choses que l'Évangile ne produira pas chez toi. Et après ça, il va décrire ce que ça va produire chez toi. La liberté de l'Évangile ne t'incitera pas à commettre les œuvres de la chair. Ça va être au contraire. Et Paul décrit les œuvres de la chair. Il dit les œuvres de la chair, verset 19, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. John Stott a dit à propos de cette description, il dit, nous avons ici un catalogue dégoûtant des œuvres de la chair. Puis il commence à faire une liste, là. D'ailleurs, la liste peut se diviser en quatre catégories. On peut les cataloguer. Premièrement, les péchés sexuels. On peut les regrouper. L'inconduite, fornication. Ça, c'est la sexualité avant le mariage. L'impureté, ça comprend la pornographie, la débauche. Deuxièmement, tu as les péchés païens, si on peut dire, l'idolâtrie, la magie, tout ça. Les péchés relationnels, comme l'hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie. On peut parler des péchés d'indulgence, ça c'est les excès. Si tu laisses finalement tous les goûts à l'excès, ivrognerie, etc. Et le résultat des œuvres de la chair, verset 21, le résultat de ça, et ça fait peur. Verset 21, terrifiant ça. Il dit, je vous le dis d'avance, dit Paul, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Terrifiant ça. Moi, j'aurais aimé qu'il ouvre une parenthèse. Ben, c'est différent. Dans certains cas, non, il finit là, il y a un point, ça arrête là. Il te laisse comme ça. Il dit, je vous le dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. En d'autres mots, si toi, ton évangile, c'est l'évangile que tu as cru, t'as fait croire que tu peux faire ce que tu veux, puis c'est pas important, c'est correct, je te le dis tout de suite, c'est ce que Paul est en train de dire, je vous le dis, vous n'avez pas cru au bon évangile. Parce que la liberté de l'évangile ne produira pas ces choses-là. Donc, l'évangile tel que compris dans les Écritures saintes, ne produira pas ces choses. D'ailleurs, au contraire, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, ce qui est présupposé, c'est qu'un vrai chrétien manifeste la sainteté de Dieu. C'est sûr que ça va être comme ça. Absolument. Il va tomber, se relève, va trébucher parce qu'on est encore pécheur. Absolument, on ne parle pas de ça, là. Mais si notre conception de l'Évangile laisse entendre qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est que finalement, on n'a absolument pas la bonne évangile et ultimement, c'est que tu es perdu. T'es pas vraiment sauvé, t'as pas vraiment la vie éternelle. T'as pas compris vraiment l'évangile. Parce que la liberté de l'évangile ne pratique pas les œuvres de la chair. La liberté de l'évangile ne nous donne pas la permission de tout faire. C'est pas vrai, c'est pas le vrai évangile ça. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas là. Et là, ce que nous avons, c'est que la liberté de l'Évangile ne manquera pas de produire. Elle ne manquera pas de produire le fruit. L'esprit produit un fruit. Et ça se distingue des œuvres de la chair. Le point, c'est que le cœur humain doit être transformé ou ils ne peuvent pas être sauvés. Il y a une transformation qui va avoir lieu. C'est que ta transformation, ta sanctification démontre la réalité que tu as cru dans le bon évangile. Il y a du fruit dans ta vie. Il faut qu'il y ait du fruit. Mais évidemment, ça prend la force du Saint-Esprit. C'est une force qui est vivante, qui est vitale, qui est puissante, afin de produire ce fruit-là dans notre vie. En d'autres mots, c'est pas juste un changement de conviction, ça, croire à l'Évangile. C'est pas juste seulement un changement de notre statut devant Dieu qui est la justification. Ça, la Bible appelle ça la justification. Non! Non, la justification, ça a une importance extrême. C'est ton statut devant Dieu. Tu es justifié uniquement par grâce en plaçant ta foi sur Christ, en Jésus-Christ. Mais le salut, c'est plus complexe que ça, c'est plus large que ça. Quand tu regardes dans les Écritures, ça va avoir une implication dans ta transformation. Ta vie va commencer à transformer. Quand tu crois, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu vas commencer à avoir des changements dans ta vie. C'est ça le point. C'est pas ça qui va te sauver. Il y a juste le salut en Jésus-Christ qui est gratuit pour toi. C'est pas en faisant des œuvres, c'est pas en devenant meilleur que tu vas gagner une place au ciel. Non, c'est pas ça que tu es en train de dire. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que si tu as effectivement cru dans l'Évangile tel que la Bible l'enseigne, le bon Évangile pur, si tu vas avoir une transformation dans ta vie, il va avoir du fruit dans ta vie. Il y a des choses qui vont commencer à changer. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, il y a ton statut qui change, c'est la justification. Mais après ça, il va y avoir la sanctification. Et ça aussi fait partie de tout le salut, parce que nous avons été sauvés de la perdition, du jugement. Il n'y a donc maintenant plus de jugement, de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a une transformation, une sanctification. Alors nous continuons à être sauvés. Et nous serons sauvés lorsqu'on va rentrer au ciel, ultimement et parfaitement, lorsque nous connaîtrons la glorification. Alors, comment décrire ce fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la maîtrise de soi. Et Paul va dire au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire, la liberté de l'Évangile fait plus que juste éviter le péché. Elle fait plus que nous protéger du péché. Elle nous donne même des vertus. Elle nous donne le fruit de l'Esprit. Elle nous transforme. Elle dépasse l'obéissance de la loi. Elle va plus loin. Et même si on pouvait obéir parfaitement à la loi, même si on arrivait là, si t'es capable d'obéir parfaitement à la loi, le fruit de l'Esprit va dépasser ça. Tu vas avoir l'amour avec ça. Tu vas avoir la patience, la joie. Alors, il dit la loi, elle peut pas être contre ça. Ça va plus loin. L'Évangile nous transforme. Elle va continuer à nous transformer. Et John Newton, vers la fin de sa vie, a écrit quelque chose de vraiment édifiant. Il dit ceci, il dit, écoute, il dit, je ne suis pas ce que je veux être. Ah tiens, j'ai même écrit ici, là, j'ai même mis sur PowerPoint. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce que je serai un jour. Mais, je ne suis pas ce que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis que je suis. L'Évangile produit toujours un changement de vie. Or, s'il n'y a pas de changement de vie, où sont les évidences que tu as cru vraiment dans le bon Évangile? Que ta conception de l'Évangile est selon les Écritures, comme Dieu l'a donné. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Un Évangile sans puissance pour transformer, c'est pas l'Évangile. L'Évangile va produire la transformation, le fruit de l'Esprit. Alors, on est engagé dans un combat, chacun d'entre nous. C'est le combat contre la chair. Et l'une de ces transformations-là, c'est la maîtrise de soi. Maintenant, c'est quoi la maîtrise de soi? C'est de faire la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent, ton corps, tes désirs te disent, t'as besoin de ça, tu veux ça, ça c'est ta passion, c'est tes désirs. Ça, c'est l'urgent. Mais la maîtrise de soi dit, non, je fais pas ce qui est urgent en ce sens-là, je vais faire ce qui est important. Alors, 1 Corinthiens 9 dit ceci. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Quand tu cours, ton corps va commencer à t'envoyer des messages très forts. Urgent, là. C'est urgent que tu arrêtes. Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as besoin de repos. Arrête! Et puis tu cours, tu as fait un kilomètre. Tu commences, tu es en forme. Tu as mis des running shoes, tu viens d'acheter des running shoes chez Sport Expert, puis tu es en forme, tu as tout le beau costume, tu as l'air d'un vrai athlète. Tu pars le matin, tu pars à courir, puis tu es en forme. Tu cours. T'sais. Alors, moi, si tu me voyais courir le matin, là, j'allais super en forme, le vrai athlète, pendant quelques minutes. Quand je rentre à la maison à la fin, je fais dur. Et mon plus grand défi, là, je suis pas un marathonnier, moi, je cours juste quelques kilomètres, là. J'étais un néophyte, j'étais un petit débutant, moi, là. Je me rendrai sûrement pas très, très, très loin, là. Mais ça fait rien. Il y a une chose qui se passe quand tu cours. Tu cours, puis tu es là, puis tu regardes. À cette heure-là, tu commences à courir, tu regardes le paysage, puis tu cours. Puis c'est super. Tu es en forme, tu regardes, t'admires, puis ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps commence à te parler. Alors, c'est de la compagnie. Il commence à te parler. Tu sais, il commence à te dire, bon, tu pourrais arrêter. Tu m'as fait assez à matin. Venons donc à la maison, il fait chaud. Là, il fait froid. Va-t'en à la maison, va te prendre un petit cappuccino, un petit café. Là, tu dis, non. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te parler, tu vas commencer à répondre. Tu parles, tu dis, non, il n'y a pas question, là, je fais moi. Là, tu commences. Là, tu as un échange. Là, ça parle fort. À un moment donné, là, je te le dis, là, c'est tellement fort, j'arrive toujours au même boulevard, là, sur la rue Saint-René. Quand je tourne Saint-René, là, ça me crie, là, j'entends ça, ça crie tellement fort. Puis ça me dit, qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Et puis ça arrête pas, là. Arrête! Là, je cours. Puis là, j'arrête pas de m'obstiner. Je m'obstine. Je t'en chicane avec moi-même. Non! Je continue! Non! Arrête! Non! Arrête! Non! Hey, là, je fais dur, là. À plein psychiatre, là. Je commence à avoir des gros problèmes personnels, là. Là, ça n'a pas de bon sens. Gros chicane avec moi-même. C'est quoi? C'est que tes désirs, tes passions, tes désirs te lancent un message urgent. Arrête. Et toi, tu dois lutter et combattre. Vois-tu la maîtrise de soi? Tu dois combattre pour corriger et refuser d'entendre ce message-là. Maintenant, c'est drôle parce que la science sportive a fait beaucoup de recherches là-dedans. Puis là, ils ont découvert que quand tu écoutes la musique, ça t'aide à réduire, tu t'écoutes moins d'à peu près 10%. Ça, c'est le message de ton corps qui n'arrête pas de te crier, que l'urgent, c'est que tu arrêtes. Tu réduis un peu ça, tu l'entends un petit peu moins. On appelle ça la dissociation. Mais dans le fond, c'est quoi la dissociation? C'est que tu es en train de pas écouter ces messages urgents qu'on te donne pour que tu écoutes un autre message. Et c'est quoi? C'est que tu arrives au bout. Dans le contexte de Corinthiens, ça dit quoi? Regarde le prix au bout. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est que tous les jours, tu as ce combat-là où ta chair va te dire, tu as un urgent besoin d'avoir ça. Tu as un urgent besoin d'elle, de la remettre à sa place. Tu as un urgent besoin de. Mais le Saint-Esprit va produire un fruit en toi de restreindre ça. Par exemple, si tu as de la colère, tu es une personne colérique, le Saint-Esprit, ce qu'il va produire en toi, c'est de restreindre ta colère. Tu as des problèmes avec la convoitise, le Saint-Esprit va vouloir restreindre cette convoitise-là. Tu as des problèmes avec la langue, la communication, tu vas lancer quelque chose, tu as une tendance à lancer une phrase qui va faire mal, qui va briser une relation. Tout ça. Mais le Saint-Esprit en toi, lorsque tu marches dans l'Esprit, lorsque tu es rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit, ce qu'il va vouloir faire, c'est de retenir, de restreindre ta langue. Vois-tu la maîtrise de soi dans les Écritures? La maîtrise de soi, selon qui s'inscrit dans les Écritures, va produire chez toi de la sainteté. Elle va te restreindre parce que maintenant, tu peux avoir la victoire. Tu peux avoir la victoire sur les luttes. C'est magnifique. On peut maintenant avoir la victoire. Parce qu'il nous dit, verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par le Saint-Esprit. On peut maintenant avoir le contrôle. Nous pouvons maintenant avoir la victoire dans cette lutte-là par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque je deviens un chrétien, je ne suis plus sous la domination du péché. Je peux maintenant me dégager et avoir la victoire qui a été gagnée par Jésus-Christ. Le péché n'est plus roi chez nous. Il n'est plus roi chez toi. Tu es un enfant de Dieu, le péché n'est plus roi chez toi. Tu as un autre maître. C'est Jésus-Christ. Tu n'es plus obligé de faire ce que tu faisais ou ce que ta chair veut te pousser, t'inciter à faire. Tu n'es plus obligé maintenant. On peut avoir la victoire. On n'est jamais dans une solution où l'on est dominé par le péché, ou le péché, parce que le péché n'est plus notre roi. Mais notre chair veut toujours aller dans l'autre sens, et c'est ce qui explique pourquoi les chrétiens luttent avec la maîtrise de soi. La chair nous donne parfois l'impression que nous sommes toujours sous l'emprise du péché. « Ah, j'ai pas le choix, c'est plus fort que moi. » Non, 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 c'est pas plus fort que toi. Absolument pas, ça c'est un mensonge. C'est faux. Tu n'es plus sous l'emprise, sous la domination du péché. Tu peux maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, avoir la victoire. Mais vois-tu, la chair veut te faire croire que tu es encore sous la domination du péché. John Owen a dit ceci. Lui, il résume, c'est un puritain. Il a écrit ça des centaines d'années. Il a écrit un livre pour les pasteurs, puis c'est vraiment intéressant. Il dit, en fait, le job d'un pasteur, c'est juste deux choses. Deux choses. C'est simple, hein? Deux affaires. Il dit, le pasteur passe tout son temps à ne faire que deux choses. Juste deux. Il y a des gens peut-être qui veulent aller dans l'œuvre, là. Voici votre ministère, votre travail. Il dit juste deux choses. Le ministère pastoral consiste qu'à deux choses. Un, le pasteur passe tout son temps à convaincre ceux qui pensent ne pas être sous la domination du péché qu'ils sont sous la domination du péché. En d'autres mots, l'évangélisation. Les gens qui disent, ah, moi, il y a du péché. Ben, non. Donc, John Owen dit, le pasteur passe tout son temps à convaincre ceux qui pensent qu'ils ne sont pas sous la domination du péché qu'ils sont sous la domination du péché. Deuxième tâche du pasteur. Il dit, le second problème pastoral auquel le pasteur accorde tout son temps est celui-ci. C'est de dire à ceux, et ça, c'est parle de vous autres, là. D'accord? Vous autres. Si vous êtes en Jésus-Christ, c'est parle de vous autres. C'est de dire à ceux qui ne sont pas sous la domination du péché, mais qui pensent être sous la domination du péché, qu'ils ne sont pas sous la domination du péché. D'accord? Est-ce que ma job est faite? Vous avez compris ça? C'est clair, je peux m'en aller chez nous. Je pars en vacances. C'est correct le conseil, il y a des membres du conseil, je m'en vais en vacances, j'ai fini ma job. Ah, oh, OK. Comprends-tu le message qui est tellement important pour toi? D'accord? C'est de dire à ceux qui pensent, à ceux qui ne sont pas sous la domination du péché, mais qui pensent qu'ils sont sous la domination du péché, qui ne sont pas sous la domination du péché. Ça, c'est toi, ça. Je ne suis pas sous la domination du péché. T'entends-tu des amen? T'es plus sur la domination du péché. T'es plus là. T'es plus esclave du péché. Mais ta chair va te faire accroire que t'es là. Donc, répète-toi le message. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est de regarder le prix au bout de la course. Rappelle-toi ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'on veut faire avec la Sainte-Sainte. On veut se rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Parce que chaque fois qu'on prend la Sainte-Sainte, on est en train de dire à tout le monde, hey, sais-tu quoi? Je ne suis plus sous la domination du péché. D'accord? On est en train de célébrer ça. On va prendre la Sainte-Sainte tantôt, puis on est en train de célébrer ça. Que, hey, je ne suis plus sous la domination du péché parce que Jésus-Christ est allé à la croix pour me libérer de la domination du péché qui me rendait esclave. Ah, oh, bon sang, j'ai hâte de prendre la Sainte-Sainte. Amen. Êtes-vous avec moi? Libre. C'est ça la liberté de l'Évangile. Ça transforme, ça change. Ça change ton statut, ça change qui t'es, puis ça va tranquillement te transformer que tu deviennes de plus en plus à l'image de Christ. Ah! On se maîtrise en gardant nos yeux sur Jésus. Et c'est pas juste un exercice intellectuel en passant. On adore Jésus. C'est en adorant Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Tu adores jusqu'à ce que ton cœur trouve Jésus plus beau que l'objet que tu vas avoir. Vois-tu? C'est comme ça que ça fonctionne, la maîtrise de soi, selon les Écritures. Tu adores Jésus, tu médites sur lui, tu regardes les Écritures, ça a besoin des Écritures pour ça, avec la puissance du Saint-Esprit, puis à mesure que tu es en train d'adorer Jésus, tu tombes en amour de plus en plus, au point que ce que tu désirais, les passions de la chair, les œuvres de la chair, ce que tu désirais finalement, devienne de moins en moins attirant. Parce que Jésus-Christ est ce que tu veux de plus en plus. Et à mesure que tu es en train d'adorer, le Saint-Esprit est en train de te changer, tu seras de plus en plus comme lui. Et que tu deviennes finalement ce que tu désires dans ton cœur, ce désir-là qui a été placé par l'Esprit Saint, et ce que Dieu veut pour toi. Amen. Donc, portons nos regards, fixons nos yeux sur notre Maître, notre nouveau Maître. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur. Parce que nous ne sommes plus sous la domination du péché, mais nous avons été libérés maintenant, Seigneur, pour être sous le contrôle et la puissance du Saint-Esprit, qui remplit notre joie de beaux fruits, un beau fruit, l'amour, la patience, la joie, la maîtrise de soi. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons prendre la Sainte-Seine ce matin, Seigneur, et avec reconnaissance que nous avons été libérés par la puissance de l'Évangile. Amen.